Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux habitués de la Maison Mola, qui me rappellent que j'étais venu une fois pour présenter le premier livre non médical, non scientifique en quelque sorte, que j'avais produit sur Jean Hameau et le bassin d'Arcachon autrefois. Et puis là, c'est la deuxième fois, à l'occasion de la venue de Madame Caroline De Costa, qui vient de Sydney, en Australie, où elle a pris l'avion. En réalité, elle travaille à Cairns, qui est dans le Queensland, hein, au sud de l'Australie. Donc ça lui fait un sacré périple.
Au nord,
le Queensland, que je connais moi par la fièvre cul, la fièvre du Queensland. Alors, donc ça nous a donné aussi l'occasion de faire une présentation conjugale, ma femme et moi, avec la vie de Denis Mola. Et moi, je vous présente simplement en quelques mots là, ce que nous avons produit conjugalement. Alors, chez le même éditeur, d'ailleurs, chez Glyph, et vous allez voir que ce n'est pas de hasard, hein, pourquoi je lui ai fait la préface de son livre et pourquoi nous nous retrouvons ici et pourquoi j'ai pu lui faire obtenir le prix d'histoire de la médecine de l'Académie de Bordeaux. Donc tout ça, c'est un peu lié. Alors, j'ai fait une thèse d'histoire de l'art en 2006 que j'ai soutenue ici à Bordeaux. J'ai attendu qu'elle repose un peu comme la pâte de crêpe pendant 4 ans. Je l'ai réécrite grand public, hein, pour lui donner une forme plus attrayante, moins académique. Et c'est sorti chez Glyph, donc notre éditeur commun, Éric Martini, en 2010. Et ça s'appelle « Entre médecine et religion ». Donc c'est pour montrer qu'avant que la médecine soit efficace, quand elle était, disons, tout à fait inefficace, à part les chirurgiens. Les chirurgiens ont un statut spécial parce que, de tout temps, ils ont su répondre à la question posée, arrêter une hémorragie, réduire une fracture, une luxation, etc. Tandis que les médecins, jusqu'à la moitié du 19e, se sont perdus dans des gloses de la logorée verbeuse, héritées des anciens de Galien et Hippocrate et compagnie. Voilà. Donc, il n'y avait que les saints. Hein, à quel saint se vouer? Et donc, il y avait des tireuses de saints. Il y avait un saint pour toutes les maladies. Alors, il fallait trouver le bon, bien entendu. Hein. Alors, donc, ceci est éclairé à propos de saint Antoine Ermite, qui a été mon fil conducteur, et l'ordre hospitalier des Antonins. Donc, c'est une relation directe avec la médecine. Et puis, il y avait saint Roch, évidemment, le grand recours contre la peste, hein, puisqu'il avait guéri de son bubon pesteux. Et voilà. Et à la fin, je dis, mais comment se fait-il que, avec le changement complet que nous connaissons de médecine efficiente, hautement efficace dans tous les domaines, on a quand même une insatisfaction du public. C'est facile. Il n'y a qu'à soi-même aller dans les hôpitaux. On l'a vu hier avec ma femme, qui a eu une séance de lithotricie, où il y a eu des questions complètement idiotes. Hein, les jeunes peuvent être très savants techniquement, mais alors le savoir dire, ne pas dire, être, etc., ça a vraiment des lacunes, ça pêche. Donc il y a un défaut d'humanisme, et c'est à retrouver, à reconstruire. Manifestement, il y a un besoin certain, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de nos contemporains se livrent à la médecine, bien entendu, mais avec une certaine réticence, et s'adressent de plus en plus à ce qu'on appelle, non pas la médecine parallèle, mais les thérapies complémentaires. C'est le terme que nous employons à l'Académie de médecine. Les thérapies complémentaires pour apporter quelque chose que la médecine ne leur apporte pas. Alors, le pourquoi? Et donc, c'est l'objet des réflexions des derniers chapitres de ce livre. Voilà. Et puis après, ben, je me suis amusé à faire le bassin d'Arcachon par les peintres, hein, une anthologie, parce qu'il y en a des myriades et des myriades. Hein, et donc, j'ai fait un choix de une bonne cinquantaine de peintres que j'estime, moi, être des grands et des bons peintres. Mais ce n'est pas tous les peintres, bien entendu. Et puis, mon épouse a sorti, il y a quelques semaines, chez les dossiers d'Aquitaine, Saint-Jacques de Compostelle, le chemin raconté à mes petits-enfants, hein, que j'ai tapé, que j'ai illustré, que je trouve très bien écrit. Elle ne reçoit que des compliments. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez lui poser des questions après Madame de Costa. Alors, venons-en à elle. Madame de Costa, donc, qui a un nom portugais, mais elle m'a dit que c'était son mari qui était d'origine portugaise. Elle est née en Australie, hein, et elle a une culture anglo-saxonne. Et donc, ayant pratiqué la gynécologie et l'obstétrique à Cairns, au moment de la retraite, un peu comme moi, elle s'est dit, il faut que j'écrive un peu le fruit de mon expérience. Et ayant manipulé toute sa vie la pince de vie professionnelle, la pince de Pozzi, eh bien, évidemment, elle est partie de Pozzi, et s'intéressant à Pozzi, évidemment, elle ne pouvait que tomber sur Sarah Bernhardt, évidemment, puisque Sarah Bernhardt a été l'amante de Pozzi pendant une bonne dizaine d'années. Pozzi, donc natif de Bergerac, mais elle va vous raconter ça plus en détail que moi, natif de Bergerac, fils d'un pasteur d'origine italienne, probablement à Bergerac, n'est-ce pas, est parti faire des études de médecine en 1870. Bien, donc l'école de médecine, l'Odéon est tout à côté, et à l'Odéon, Sarah Bernhardt jouait une pièce qui ne vaut pas grand-chose, Le passant de Copé, mais déjà c'était l'idole, c'était vraiment la star. Et donc ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, bien, ça a été une passion folle, et puis ça a duré une dizaine d'années, ils ont envoyé des billets doux, bien sûr, ils ont commencé à ce moment-là, et puis au bout de 10 ans, il était devenu professeur de chirurgie, et de chirurgie abdominale et gynécologique, et ça a été le fondateur de la gynécologie chirurgicale. À ce moment-là, ben, il fallait qu'il se place en quelque sorte dans la bonne société, et il ne pouvait pas être Monsieur Bernhardt, et Sarah ne pouvait pas être Madame Pozzi, c'était pas du tout possible à l'époque, et peut-être même encore maintenant. Donc, on lui a trouvé une bonne lyonnaise, bien dotée, ils sont mariés, ils ont eu des enfants, et vous allez retrouver le descendant, l'arrière-petit-fils de Pozzi, à l'origine des archives que Madame d'Acosta a pu trouver. Alors, pourquoi nous retrouvons tous les deux ici? C'est parce que, chez notre éditeur commun, j'ai commis un ouvrage, « Médecins et malades célèbres », et qui s'est vite épuisé, et il a fallu faire une deuxième édition. Et dans cette deuxième édition enrichie, j'ai ajouté plusieurs chapitres. Il y en a un sur Richelieu qui a été sondé à Bordeaux, il y a le saturnisme des empereurs romains, etc. Il y a aussi un chapitre sur le doyen Mauriac et ses relations avec son frère François, etc. Et Sarah Bernhardt, je dis quand même, c'est le moment de parler de Sarah Bernhardt, allant sur le bassin depuis des années, en Dernos, c'était donc incontournable. Et j'ai fait un chapitre sur Sarah Bernhardt, d'abord à Bordeaux, quand on lui ampute la jambe droite, à la clinique Saint-Augustin, que le grand-père de notre ami, cher ami Michel Portman avait fondé, c'est-à-dire le professeur Emmanuel Jules Moore, hein, qu'il avait fondé parce qu'il a eu une très, très grosse clientèle otorhino-laryngologique. Il a eu la première chaire en France réunissant l'otologie, la rhinologie et la laryngologie. Et que c'est comme ça qu'il a été amené à opérer du nez le roi Alphonse XIII. Et il ne pouvait pas l'opérer dans les hôpitaux qui, à l'époque, n'étaient pas très reluisants. Et donc, il a créé la clinique Saint-Augustin, la clinique privée Saint-Augustin, rue d'Arès, qui existe toujours. Il a opéré là, Alphonse XIII, donc appartement royal. Et quand il a été question d'opérer donc Sarah Bernhardt en 1915, donc c'était en pleine guerre, de 14-18, la bataille de la Marne, etc., et Clémenceau le premier dit « il faut protéger le trésor national, envoyez-la dans le sud-ouest », c'était toujours le refuge ici, hein. Ça a été le refuge en 70, en 14-18, en 40, hein, dans la rue Vital-Carl, tout près, d'où est parti le général de Gaulle pour s'embarquer à Mérignac via Londres et lancer son fameux appel. Bien, donc, il fallait l'opérer, non pas à l'hôpital des enfants du cours de l'Argonne où de Nucey avait son service d'orthopédie. Ben non, c'était pas possible, service d'enfants ne pouvait pas accueillir une adulte de 70 ans. Elle avait quand même 70 ans, la bonne Sarah. Et donc, c'était la clinique privée qui, de Royal, comme on l'a dit, est devenue impériale, l'impératrice du théâtre. Et tous les jours, elle avait le bulletin de santé. C'était une diva internationale, hein, plus que ce que l'on voit maintenant avec nos divas ou chefs d'État. C'est un degré qu'on ne peut pas soupçonner. Et après, elle est allée faire sa convalescence pendant une bonne année en Dernos, chez Madame d'Acosta. Vous vous rendez compte, hein, vous étiez faite pour vous rencontrer. Da, de, juste une voyelle qui vous différencie. Et là, elle a mené grand train de vie, et c'est ce que je raconte dans cette histoire, ayant récolté beaucoup de documents. Elle recevait le tout Paris, elle festoyait, n'est-ce pas, c'était extraordinaire. Elle avait un grand cœur, elle était très généreuse. Voilà. Elle dit, oui, moi j'aime bien la bonne chère, mais c'est surtout pour faire plaisir à mes amis. Donc il y a des histoires comme ça que j'ai pu retrouver qui sont très drôles. Et je l'ai mise en première de couverture. Donc là, quand elle était jeune, représentée par un de ses nombreux amants, parce qu'elle en a eu toute une myriade, qui est le peintre Clairin, hein, qu'elle recevait en Dernos aussi. Et donc là, elle est représentée jeune dans son appartement de l'hôtel du Parc Monceau. Hein. Voilà. Et donc, ceci explique que lorsque Madame de Costa a porté son texte en français, puisqu'elle l'a publié auparavant en anglais, à Éric Martini des éditions Glyph, évidemment, il a pensé à moi pour faire la préface. Voilà. Et donc, ayant lu ce livre, l'ayant trouvé tout à fait passionnant par tous les documents qu'elle rapporte sur la Belle Époque, hein, la Belle Époque, il était pour certains, mais pas pour tous, évidemment, hein, qui va de 1870, cette guerre atroce, où là, Pozzi était en première loge, comme Sarah Bernhardt. Hein, elle était très dévouée dès ce moment-là, lui suturait les plaies abdominales, etc., jusqu'à la mort de Pozzi, vous en parlerez certainement, en 1918, assassiné sauvagement, ayant demandé à ses élèves de l'opérer sans anesthésie. C'est tout à fait héroïque. Et donc, Madame de Costa a voulu retracer cette époque. Alors, il n'y a pas besoin de roman, parce que c'est tout à fait romancé, avec les événements politiques qui se greffent, comme l'affaire Dreyfus. Et elle a eu surtout l'heureuse idée, moi je me suis dit, j'aurais pu l'avoir avant elle, vous voyez, quand hein, c'est merveilleux de se dire, je vais retrouver les descendants de Pozzi. Et alors, comme Catherine Pozzi, la fille de Samuel Pozzi, avait épousé Édouard Bourdet, il y a eu des enfants et des petits-enfants. Et donc, vous avez contacté Nicolas Bourdet, qui avait gardé toutes les archives familiales. Et donc, c'est comme ça qu'elle a pu avoir plein de documents et de photographies d'époque, des lettres de gens éminents comme Maupassant, parce que Pozzi connaissait tout le beau monde de l'époque. Voilà, donc c'est une histoire de la vie mondaine, de la vie politique, de la vie tout court de la France, donc de cette belle époque, avec ces visages tout à fait étonnants de Sarah Bernhardt et de Pozzi, Pozzi qui donc a été le créateur de la chirurgie gynécologique. J'ai consulté son livre sur les techniques de chirurgie. Vous l'avez consulté, vous aussi. Et on a un exemplaire à l'Académie de médecine et il était tout à fait précurseur. En plus, comme la deuxième femme de son père était anglophone, était anglaise ? Oui, était anglaise, je crois. Était anglaise. Donc, et il a été donc anglicisé par sa belle-mère, et donc il était bilingue, et ça lui a permis d'avoir accès aux deux cultures. Et la culture anglo-saxonne américaine, il est allé à la Mayo Clinic, et il a fait venir d'ailleurs Alexis Carrel, qui avait travaillé à la Rockefeller, donc il avait des échanges, et ça lui a permis d'être comme ça très en avance sur son époque. Et c'est comme ça qu'il a été admis, évidemment, très, très facilement à l'Académie de médecine. Voilà. Où on a son portrait. On a son portrait qui a été peint par un Bordelais célèbre, dont malheureusement la collection qu'il avait léguée est partie à l'encan par l'incurie de... Je ne nommerai pas, mais ça a été incroyable d'avoir laissé partir ça, puisque comme on n'a pas donné une salle pour montrer tous les Jean-Gabriel Domergue, puisqu'il s'agit de lui, les héritiers ont repris évidemment le legs, puisqu'il n'était pas honoré, satisfait comme l'avait demandé Jean-Gabriel Domergue, et les héritiers ont vendu tout ça à l'encan. Et c'est parti, encore un déficit pour les collections bordelaises. Mais on a un tableau à l'Académie de médecine de Samuel Pozzi par Jean-Gabriel Domergue, et puis le tableau qui a été fait par John Singer Sargent, là, que vous voyez, avec cette espèce de robe de chambre ou de houppelande de rouge qui est magnifique, se trouve à Los Angeles. Voilà, Los Angeles, il est parti, voilà. Mais c'est comme ça qu'on laisse partir notre patrimoine, voilà. C'est tout à fait, voilà. Et puis, ce n'est pas un cas unique, il y en a de multiples comme ça. Voilà, donc, je crois que je vous en ai assez dit pour vous présenter, madame de Costa, donc, qui a eu la très heureuse idée de retracer cette période et d'aller aux archives de Nicolas Bourdet, qui l'a très bien reçu. Voilà, cher ami, ben maintenant, vous avez la parole. Et puis, vous pouvez répondre aux questions qui vous seront certainement posées.
Ah, merci. Et bonsoir. Je suis très contente de me trouver à Bordeaux pour la première fois. Et nous venons de faire une visite très intéressante dans la vieille ville. C'est vrai que Pozzi était médecin parisien pendant toute sa vie professionnelle, mais il avait pendant toute sa vie des liens avec le sud-ouest. Il est né à Bergerac. Il a passé son bac à Bordeaux. Il est venu à Bordeaux juste après la guerre de 1870. 10,
oui.
10. Il est venu pour voir Sarah Bernhardt après son sa chirurgie en 1915. Et il était aussi sénateur pour la Dordogne. Pourquoi un gynécologue australien s'intéresse dans la vie de Posy? Je suis gynécologue et l'histoire de ma discipline m'intéresse beaucoup. Et c'était par cet intérêt que j'ai découvert le traité de Posy, le traité de gynécologie qu'il a écrit en 1890. C'est absolument magnifique. C'était la première fois qu'on a ramassé tout le savoir de la gynécologie. Et il a été publié à Paris en 1890 et immédiatement traduit en anglais, en Allemagne, en italien. Et c'était le livre le plus important pour les gynécologistes et les étudiants de la gynécologie jusqu'à les années 30. Et j'ai rencontré par Internet une journaliste américaine à Los Angeles qui connaît le portrait de Posy. Et c'était pas ça que nous avons commencé à écrire des articles sur la vie de Posy. Et puis j'ai fait la connaissance de Nicolas Baudet à Paris, où se trouvent les archives, la correspondance de Posy avec beaucoup de personnages de la Belle Époque, comme de Maupassant, de Clemenceau, beaucoup, beaucoup. Et il m'a montré les lettres de Sarah Bernhardt, qui sont très fragiles. Il a fallu les décrypter et puis traduire en anglais. La plupart n'ont jamais été publiés. Et c'était un trésor pour écrire le livre en anglais. C'est la biographie se base sur ces lettres de Sarah à Posy. Malheureusement, les lettres de Posy à Sarah ont été détruites. C'est tout, c'est l'histoire, oui, de ce livre.
Ah, si je peux ajouter quelque chose, il a opéré Sarah Bernhardt d'un kyste de l'ovaire.
Oui, oui.
Kyste de l'ovaire qui était gros comme la tête d'un enfant de 13-14 ans. Oui, qui était quand même impressionnant. Hein? Donc, il devait peser facilement 3 à 4 kilos. Il y a des kystes d'ovaire, en effet, très, très volumineux. Il a opéré, elle s'en est très bien remise. On a le compte-rendu opératoire. Et elle s'est toujours confiée à lui. C'était son docteur Dieu, c'était sa référence. Hein? Et lui demandait toujours conseil pour sa santé, pour la santé de ses enfants, de ses amis, etc. Voilà, c'était vraiment sa référence. C'était un conseiller très, 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 très proche. Voilà. Et ce qu'on peut dire également sur le plan chirurgical, après la lecture que j'ai faite de son traité, c'est qu'il a eu il a fait partie de ces chirurgiens qui ont eu les premiers succès de la chirurgie. Car ça a correspondu d'une part à l'arrivée de l'anesthésie à l'éther. Ça n'a pas été si facile que ça parce que certains étaient contre, comme Magendie, François Magendie, le maître d'origine bordelaise, le maître de Claude Bernard. Bien, comme si on allait devenir des hétéromanes parce qu'il y avait une anesthésie. Mais on a connu la même chose avec la morphine, hein, c'était ridicule. Bien, il s'est converti par la suite. Ensuite, il y a eu le chloroforme, l'anesthésie à la reine Victoria, hein, à qui on a donné le chloroforme quand elle a accouché. Elle a accouché, je ne sais pas, des enfants d'Albert, je ne sais pas, une dizaine ou douze fois, je crois, multiples enfants. Bien, donc, l'arrivée de l'anesthésie, et deuxièmement, l'asepsie, antisepsie. Et là, Pozzi, comme il était anglophile, hein, il parlait très bien anglais grâce à sa belle-mère, il est allé visiter Lister, hein, à Édimbourg, Joseph Lister. qui a été le premier à appliquer en quelque sorte, à anticiper les idées de Pasteur avec l'acide phénique. Eh oui, c'est-à-dire à stériliser les instruments chirurgicaux. Alors après, ça a été l'autoclave, etc. Mais il a été un des premiers. Donc avec cette double garantie de l'anesthésie et de l'asepsie, il a eu des succès. Alors que 10 ou 20 ans auparavant, Nélaton, qui était un grand chirurgien parisien, n'avait que des hécatombes. Alors, dans les hôpitaux, les femmes mouraient, alors il les opérait dans une clinique extérieure, pensant que l'air était meilleur, qu'il y avait moins de miasmes, etc. Elles mouraient de la même manière, parce que, évidemment, c'était sceptique, des opérations sceptiques. Hein. C'est comme les césariennes. Avant l'apparition de l'antisepsie, de l'asepsie, toutes les césariennes étaient soldées par la mort. C'est pour ça qu'au XVIIe, les théologiens poussaient Morisseau, qui est aussi un de vos anciens. Eh oui, François Morisseau, c'est le premier à faire un traité de maladie des femmes grosses et nouvellement accouchées, qui est magnifique, qui est superbe, des plans superbes, que j'ai chez moi avec parcheminée, que je vous le ferai voir, qui est vraiment un très bel ouvrage. Et les théologiens le poussaient à faire, dans les cas de difficulté d'extraction, une césarienne pour pouvoir baptiser l'enfant, pour pas qu'il aille en enfer. Ouais. Bien, alors, Morisseau était vraiment très anticipateur. Il a mis au point une canule pour ondoyer in utero, pour baptiser in utero, pour faire taire les théologiens. Eh bien oui, il y a toujours eu des intégristes, hein, voilà. Parce qu'ils savaient très bien que s'ils césarisaient les femmes au XVIIe siècle, elles mouraient automatiquement, bien entendu. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui est un des phares de la chirurgie grâce à ces deux acquisitions, l'anesthésie et l'antisepsie. Hein, voilà. Et ça, c'est... Alors, il y a aussi autre chose. Il a été un pionnier, je parle à la place de la gynécologue, là, hein, à savoir qu'avant, on enlevait l'utérus pour un fibrome, on enlevait les ovaires quand il y avait des kystes, etc. Et il a compris qu'il fallait être ménagé, très précautionneux, avec les organes génitaux féminins. Ouais. À savoir qu'il a été le premier à faire des myomectomies, c'est-à-dire on enlève le fibrome, mais on n'enlève pas l'utérus. Et comme ça, ça permet à la femme d'avoir d'autres enfants, ou des enfants si elle n'en a pas eu au préalable. Pareil pour l'ovaire. C'est bien connu que si on enlève un ovaire, l'autre dégénère. Alors, vous pourrez peut-être me dire pourquoi. Je ne sais toujours pas pourquoi. Bien, il faut qu'il y ait les deux. Bien. Alors, donc, quand il y a une anomalie sur un ovaire, eh bien, il fait en sorte de faire une ovariotomie et non pas une ovariectomie. Voilà. Donc, il a été ménagé. Et ça, c'est très précurseur. Et son livre, hein, est un livre de technique de chirurgie gynécologique. Et là, on peut dire que c'est le premier dans ce domaine. Oui, oui. Vous êtes d'accord?
Oui. Et il avait aussi une attitude très moderne envers ses patients, ses malades, les femmes. Il a dit qu'il est nécessaire d'expliquer ce qu'il va faire pour ces femmes. Et à l'époque, ce n'était pas le cas en général. Il n'était pas féministe parce qu'à l'époque... il n'y a pas de féminisme, mais il avait des idées très, très modernes. Et il avait aussi l'idée que la beauté était importante pour guérir. Et il a fait construire l'hôpital Broca à Paris avec des jardins, des fleurs. Et aussi, il a invité des peintres comme Clairin, Georges Clairin, pour les fresques, pour peindre des fresques sur les murs de l'hôpital. Mm. Oui. Et Sarah Bernhardt était le modèle, de la beauté.
La référence, oui. Oui, il anticipait les pièces jaunes de Madame Chirac. Si vous voulez, à savoir que oui, la peinture, la couleur, elle est bénéfique, évidemment. Et on est sorti en effet de la grisaille du standard des hôpitaux. Il a fallu du temps, hein. Voilà, il faut avoir un environnement tout à fait favorable, de même qu'on apprenait il y a peu de temps de la bouche de notre ami Yvan Touitou que si on veut s'endormir le soir, il ne faut pas mettre de la lumière bleue ni verte pour les enfants, mais la lumière rouge. parce que sinon on freine la sécrétion de mélatonine et on ne s'endort pas. Donc de l'influence des couleurs, vous voyez, ça va jusque-là. Hein, vous ne saviez pas ça. Il faut des lampes rouges, vous voyez. Oui. Nous n'allons pas jusqu'à dire que les maisons closes d'Amsterdam sont toutes allumées à la lumière rouge. Mais ça permet de... C'est pour les enfants que je parlais, hein, qui ont besoin d'une petite lampe pour être tranquille. Voilà. Non, mais il était vraiment très, très anticipateur. Alors, oui. Il recommande le palpé bimanuel, le palpé bimanuel, hein, un doigt vaginal et puis l'autre doigt sur l'abdomen, oui. Hein, pour palper l'utérus, etc. Il faut penser qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, comme maintenant. Hein. C'est comme les accoucheurs, avec le centimètre, hein, pour la hauteur utérine, et puis le cylindre pour écouter les battements du cœur fœtal. Ça nous paraît vraiment de l'Antiquité, à côté de ce qu'on a aujourd'hui. Ben oui, mais il fallait faire avec son temps. Hein. Et très, très pudique, il demandait d'être très, voilà, mettre le drap, etc., de faire ça avec beaucoup de pudeur, etc., et puis de parler à la patiente, de un peu, comme on fait maintenant, d'obtenir son consentement éclairé. Voilà. Alors il y a aussi autre chose qui nous surprend au jour d'aujourd'hui, mais il faut toujours se mettre dans le contexte de l'époque, c'est qu'il opérait à domicile.
Oui.
C'est étonnant. Alors, évidemment, pas dans des gourbis, hein, c'est évident. Hein, c'était dans le beau monde qu'il y avait des salons, qu'il y avait de l'espace. Alors, dans le salon, il y avait la préparation. Il amenait son anesthésiste, hein, la personne qui devait stériliser les instruments dans l'acide phénique, etc. Et puis, il y avait une autre pièce où, là, il opérait la malade. Alors, réanimation, je ne sais pas comment ça se passait, hein, les soins attentifs, mais il opérait à domicile. Voilà, donc, il avait une clientèle privée. Ce qui a dû, évidemment, lui mettre du beurre dans les épinards. Hein. D'abord, il habitait Place Vendôme. Hein, Place Vendôme.
Oui.
Il n'habitait pas au Ritz, mais enfin, il était à côté, quoi. Oui. Bien, après, il habitait Avenue d'Iéna, donc dans des beaux quartiers. Et puis, il recevait le tout Paris, les artistes, les poètes. Lui-même écrivait des vers parnassiens. Il était ami de Lecomte de Lisle. Vous voyez, donc, il avait les meilleures fréquentations. Il était amateur d'art. Il était amateur d'art, donc, ben oui. Et ses élèves, quand même, Robert Proust, c'était le frère de Marcel Proust.
Oui, oui.
Donc, il est possible, moi, je ne suis pas assez connaisseur de la recherche pour savoir si les figures aimées. Mais il paraît que, quelque part, il y aurait la figure de Pozzi dans la recherche du temps perdu. Alors, oui. Vous n'avez pas fait cet exercice?
Oui, c'est, on a dit que c'est Cotard, mais je crois que non.
Hein? Ah, Cotard, peut-être, Cotard, Cotard, moi je ne connais que Cotard du syndrome de Cotard, c'est-à-dire qui était un psychiatre, c'est le syndrome de Cotard, c'est les gens à qui on enlève un organe et puis qui quand même le remettent à sa place, c'est un délire organique très particulier, syndrome de Cotard, oui.
Vous n'avez pas lu la recherche?
Comment?
Vous n'avez pas lu la recherche?
Pas complètement, non, ouais. Pas complètement, je le confesse, oui, j'étais assez long pour être... Mais ça vient, avec le temps, je commence à lire la recherche. Oui, j'ai souvent hésité dans ces longues phrases, oui, il faut bien dire. Mais maintenant, j'y trouve un certain sel, oui.
Oui, mais Cotard n'est pas très sympa, et je crois que les rapports entre Marcel Proust et Pozzi étaient...
Très cordiaux. Très cordiaux. Proust appréciait beaucoup sa gentillesse. C'était quelqu'un de très urbain, certainement, quelqu'un de très aimable, mondain, certainement, mais très ouvert, très... voilà. Et puis, il a eu le malheur de tomber sur ce contrôleur des douanes, là, hein. Ah oui, de Boulogne, non, il était de Boulogne.
Un type à qui il avait arrangé
son varicocèle, hein, c'est-à-dire des varices du cordon spermatique, hein. Bien, donc, de temps en temps, il donnait, vous voyez, dans l'andrologie, hein, parce que c'est pas de la gynécologie, ça, hein.
Non.
Mais l'andrologie, finalement, oui, c'est le pendant pour l'homme de la gynécologie. Et c'est plutôt les urologues qui s'occupent d'andrologie à l'heure actuelle. Et puis, il avait fait ce qu'il avait pu, et l'autre qui devait continuer à avoir les mêmes problèmes qu'avant, hein, et pourtant, il avait fait des conditions de paiement, je crois, hein, à ce gars-là.
Oui, oui.
L'échelonnement de ses honoraires. Eh bien, ça fait rien. Un jour est arrivé, en 1918. Bonjour, ma fille cadette. Voilà, la voilà. Vous l'avez vue tout à l'heure en photo. La voilà en vrai. Hein? En pied. Non, elle est assise. Et donc, qu'est-ce que je disais, là?
Le fou qui est...
ce fou qui arrive, donc, excédé, il arrive avec un revolver et il lui tire dans le ventre. Alors, évidemment, Ponzi s'écroule. Bien, alors tout le monde arrive, etc. Et l'autre tourne le revolver contre lui et se tue. Bien, donc il n'y a pas eu de procès. Voilà. Et le pauvre Ponzi, le ventre ouvert, etc. Donc, on appelle immédiatement ses élèves. Ah, ça, vous voulez raconter l'histoire ou préférez que je la raconte?
Non, continuez.
Ah, je continue. Alors, donc, on appelle ses élèves, c'est-à-dire Robert Proust, le frère de Marcel, et Thierry de Martel. Et Thierry de Martel est devenu neurochirurgien. Neurochirurgien de grande qualité qui avait étudié, je pense, avec Clovis Vincent, puisque c'était le seul neurochirurgien de l'époque. Pozzi, qui était très courageux, il avait montré pendant la guerre et tout, il leur dit « Ne m'anesthésiez pas, je vais vous dire ce qu'il faut faire ». Donc, il s'est fait conduire dans un lieu pour l'opération, hein, et donc, ils ont réparé les plaies intestinales, bien, l'intestin avait plein de trous, ils ont réparé, parce qu'ils savaient que c'était autrement la péritonite mortelle, hein, et donc, lui avait compris ce qu'il fallait faire pendant la guerre de 70, là, au moment où il a était engagé et où il a connu Sarah Bernard. Et puis à un moment donné, paf, hémorragie, il devait y avoir une plaie vasculaire sur une artère mésentérique ou la veine porte, etc. On n'a pas su, une plaie vasculaire, donc choc hémorragique et il est mort. Et donc ça a été épouvantable. Quel âge il avait? Il n'était pas si vieux que ça. Il était... Il
avait repris... 62.
Oh, c'est tout jeune. 72, oui. Oui. Oh, ben, c'est encore jeune, oui. Et donc, il était militaire. Il avait repris du service, hein, bien entendu. Et donc, voilà, tous ses amis sont arrivés, dont Clémenceau. Donc, Clémenceau qui encore... enfin, c'est le plus... C'était le père de la victoire. C'était pas n'importe qui, hein. Voilà. Et donc, cérémonie funèbre au temple, je sais pas lequel... à Paris, et ses obsèques à Bergerac. Oui. À Bergerac.
Après la guerre.
Après la guerre, la guerre. Alors, oui, puisqu'il était originaire de Bergerac et qu'il avait une propriété de son père, Lagrolet.
Oui, Lagrolet.
Lagrolet. Oui. Lagrolet. Alors, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que Lagrolet, donc, qui en a hérité? Ben, sa fille, Catherine.
Ah oui.
Catherine Pozzi. Oui.
Et son fils.
Et son
Jean.
Donc, ils ont eu ce domaine de Lagrolet, et Catherine y est allée souvent. C'est une femme de lettres, une femme très intelligente. Alors, on a dit tous les deux qu'il était très d'avant-garde. Oui, il était féministe, oui, d'une certaine manière, dans sa manière d'approcher la gynécologie, avec beaucoup de pudeur, de tact, etc. Mais enfin, il avait les idées de l'époque, et quand sa fille Catherine lui a fait comprendre qu'elle voulait être médecin aussi, elle avait une belle image paternelle, il n'a pas voulu, il a dit non, c'est pas pour les femmes, donc il n'était pas encore féministe comme on l'entend aujourd'hui.
Non.
Voilà, il n'avait pas fait le chemin, vous voyez, qu'il y avait du chemin à faire. Et il n'est pas encore terminé, osons le dire, n'est-ce pas? Non, il n'est pas terminé. Je vois que ma fille cadette opine, oui, elle est juriste et elle connaît...
Quand on voit ce qui se passe en Espagne, c'est sûr.
Oui, il y a les marches arrière, voilà, rien n'est jamais acquis, on peut revenir en arrière, et puis quand même, là, je me suis permis, dans le prochain livre qui est chez notre éditeur commun, qui s'appellera « Naître aujourd'hui », où je le coordonne, je le dirige, parce qu'on est 30 contributeurs, et j'ai fait certains, l'avant-propos, et puis d'autres chapitres, mais j'ai beaucoup de confrères qui ont contribué, et je dis qu'en effet, c'est les dernières phrases, on a fait beaucoup de progrès, évidemment, par rapport au pays qui n'est pas besoin de nommer, où là, il y a 500 000 morts de femmes par an dans les pays du tiers-monde, par troubles, par anomalie de la grossesse, par hémorragie, de la délivrance, c'est là. 500 000 femmes meurent. Hein, vous rendez compte? Alors là, pas la peine de parler de la condition féminine, c'est épouvantable. Mais même dans notre pays, quand on voit les difficultés de logement des jeunes, la difficulté pour avoir des enfants, il faut avoir des enfants, il faut renouveler, oui. Mais un enfant, deux enfants, trois, ça devient absolument impossible. Et les crèches, avant de faire l'enfant, il faut savoir où on va le mettre, le petit. C'est la quadrature du cercle. Donc là, les crèches, ça va avec la condition féminine. C'est lié. Bien, Ah ben, j'ai mis dans ce livre-là, à la fin, que des entreprises comme l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et Radio France, on le sait puisque notre fils est à Radio France, n'ont pas de crèche. Ils n'ont pas de crèche dans l'établissement. On en a au CHU de Bordeaux. Bien. Alors, c'est à Aulévêque, il faut y aller. Celles qui travaillent à Saint-André sont obligées d'aller à Aulévêque. Ce n'est pas très commode. Mais enfin, il y en a une pour le CHR. À Paris, rien. La Paix. La Paix, qui est la plus grosse entreprise du coin. Bien. Alors, vous voyez, il y a beaucoup à faire.
Voilà.
Bien. Voilà. Merci beaucoup.
Merci d'être venu.